d'apporter la clairvoyance. Alors pour apporter la clairvoyance, il faut déjà apporter la paix à une personne. Pour lui apporter la paix, ben, il faut lui donner des clés. Et ces clés, c'est lui dire, voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà quelle émotion vous avez à l'intérieur de vous, et voilà pourquoi vous avez cette émotion. Parce qu'il ne suffit pas non plus de dire à une personne, vous souffrez pour telle et telle raison, il va falloir l'expliquer aussi pourquoi elle souffre et quelle est la cause du mal au départ, qui fait que elle souffre pour une situation qui fait qu'elle a attiré cette situation. Et dans le travail du médiateur, la première chose à faire, c'est de prendre chaque personne et d'expliquer à chaque personne en quoi elle est responsable d'avoir attiré une situation qui est en face d'elle. Je n'ai pas dit fautive, j'ai dit en quoi elle est responsable. Alors sa responsabilité, c'est quoi ? Sa responsabilité, ben justement, ce sont ses peurs. Ce sont les souffrances qu'elle éprouve au fond d'elle. Et ces peurs l'amènent à attirer des situations récurrentes dans sa vie qu'elle va vivre à tous les niveaux. Alors le travail du médiateur, déjà, c'est de lui expliquer ce qui se passe au fond d'elle, qui l'amène à une situation qui apparemment ne recèle pas de relation de cause à effet, et pourtant. Alors évidemment que la personne qui est en face du médiateur a des difficultés émotionnelles, donc si elle a des difficultés émotionnelles, elle va avoir du mal à se remettre en question, elle va avoir du mal à voir sa responsabilité, et surtout lorsqu'on lui parlera de sa responsabilité, elle va avoir du mal à considérer que sa responsabilité, ce n'est pas sa faute. Ce qui veut dire qu'elle va fonctionner sans se rendre compte avec ses problèmes émotionnels, et elle va avoir à ce moment-là une tendance à interpréter ce que lui dit le médiateur en fonction de ses peurs, en fonction de ses colères, en fonction, par exemple, de sa peur d'être rejetée, de sa peur de ne pas être aimée, en fonction de sa tendance à tout prendre sur le dos comme un fardeau. Elle va avoir plusieurs types de réactions, et si le médiateur n'y prend pas garde, il va se trouver dans une situation où, finalement, tout ce qu'il dit ne sert à rien, parce que l'autre personne va réagir en fonction non pas de ce qu'il entend, mais de ce qu'il croit entendre, de ce qu'il interprète. Et c'est là où se trouve la responsabilité du médiateur, c'est là où elle est très pointue, c'est que le médiateur doit arriver à avoir une clarté sans faille, à utiliser des mots d'une précision, qui va amener la personne à ne pas interpréter, ou si la personne interprète, va l'amener en lui expliquant les choses différemment, en lui expliquant aussi pourquoi elle interprète de cette manière-là, va l'amener à comprendre sa difficulté, et enfin, en comprenant sa difficulté, en comprenant sa responsabilité, en se rendant compte que même si l'autre personne lui fait du mal, elle est aussi responsable parce que elle accepte d'une certaine manière que l'autre lui fasse du mal, elle va être prête à ce moment-là à mieux comprendre la situation et à adopter une attitude différente. Mais les mots que le médiateur va utiliser vont être d'une importance fondamentale. Alors là, on va pouvoir aborder le sujet de la neutralité, parce que c'est encore un concept. Il est vrai que dans le domaine de la médiation, on parle beaucoup de neutralité, en arborant cette neutralité comme un drapeau, en disant « mais c'est extraordinaire, parce que grâce à la neutralité, on ne juge personne, on permet aux gens de trouver la paix ». Mais qu'est-ce que la neutralité ? La neutralité, on pourrait, dans ce cas-là, la considérer, enfin moi en tout cas, disons les choses comme je les pense, la neutralité pour moi devient de la lâcheté. Dans ce sens qu'un médiateur ne peut pas être, il doit être neutre, mais être neutre ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de relation émotionnelle avec les gens qu'il aide, il ne doit pas avoir une vision émotionnelle, il ne doit pas prendre parti, mais en même temps, il a la responsabilité de dire ce qu'il pense, ce qu'il voit, et d'exprimer à la personne qui est en face de lui, vous avez telle responsabilité parce que vous avez fait tel mal. Même si je ne vous critique pas, je ne vous juge pas, mais voilà ce qui se passe à l'intérieur de vous qui fait que vous avez cette attitude. Tout en expliquant aussi à l'autre que si cette personne vous fait du mal, c'est parce que vous êtes faible, c'est parce que vous avez cette attitude, et donc vous êtes aussi responsable de ce que l'autre vous fait. Donc le médiateur va obligatoirement être obligé de s'annoncer et de dire la vérité qu'il voit sans peur. Parce qu'un médiateur ne doit pas penser qu'il est là pour se faire aimer, ne doit pas fonctionner avec la peur, il doit fonctionner avec ce qu'il estime être juste pour les personnes qui sont en face de lui.
Quand on entend vos explications, peut-être ça résonne avec un des termes aussi que vous mentionnez, que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est celui du détachement, qui est souvent aussi une notion qui est assez mal comprise. Quelle est la différence que vous faites entre neutralité, détachement? Quelle est l'importance du détachement justement dans ce travail, à la fois pour le médiateur, pour la personne qui aide en fait, et pour la personne qui est aidée ou les personnes?
Alors bon, la neutralité, je pense avoir un peu donné la définition. Être neutre, ça veut dire être capable de comprendre ce qui se passe en face de nous, être capable de voir les difficultés, tout en étant capable en même temps de maîtriser une situation et d'avoir les réponses. Parce que avoir les réponses, c'est pas seulement être le plus grand, le plus fort, hein, c'est aussi être capable de voir nos difficultés et avoir conscience aussi de la force que nous avons pour pouvoir mettre en pratique certaines choses. Quant au terme de détachement, là c'est un terme qui demande beaucoup de neutralité justement. Pourquoi ? Parce qu'on apparente très souvent le terme détachement à des aspects, à des concepts religieux. Et pour moi le détachement n'a rien à voir avec cela, si ce n'est que si on prend par exemple les concepts de l'église chrétienne, de l'église catholique, de notre éducation, dans ce domaine-là, nous croyons, c'est ce qu'on nous fait croire d'ailleurs, que le détachement s'apparente quasiment à l'ascétisme. Hein. Si je suis détachée, ça veut dire que je n'ai plus de désir, ça veut dire que je n'ai plus de besoin, donc je n'ai plus besoin de me faire plaisir, je n'ai plus besoin de manger, de boire, d'utiliser ma sexualité. Et évidemment, qui a envie de cela, hein? Bon, en tout cas pas moi. Donc le détachement, pour moi c'est une autre définition. Le détachement, ça veut dire que je suis capable soit de ne pas avoir d'émotion, mais bon, ça demande un grand travail, mais c'est aussi, on peut avoir plusieurs paliers de détachement, et le premier détachement, c'est d'être capable de se dire, j'ai des émotions, je sais comment cela se passe à l'intérieur de moi, je sais les regarder sans honte, je suis capable de pouvoir les décrire à un moment donné, parce que j'ai découvert cela et j'ai commencé à travailler dans ce sens-là, et je peux les décrire, mais en même temps, je peux aussi agir pour ne pas être esclave de ses émotions, et un jour je sais que je pourrai ne plus les avoir. Donc le détachement, c'est être capable d'avoir un regard clair, d'avoir un regard réaliste sur nous-mêmes, et de ne pas avoir de honte, de ne pas avoir de peur, et d'être capable en fait finalement de s'aimer. On en arrive au point le plus important, au concept de l'amour. Ouais.
Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur le concept de l'amour, puisque la pierre est lancée?
Oui, si vous voulez. Alors, le concept de l'amour, le concept de l'amour, là aussi, dans notre société, c'est un concept, finalement, qui mérite d'être... qu'on y réfléchisse longuement, parce qu'on en parle aussi, on en parle beaucoup, mais on en parle très vite, pour moi. Je pense qu'on n'en parle pas assez profondément, dans ce sens qu'on a tendance à confondre aussi amour, être amoureux, on a tendance à confondre amour, émotion... et finalement, là aussi, c'est un terme qu'on utilise, mais qu'on utilise mal parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors l'amour, pour moi, c'est tout simplement une capacité déjà de s'accepter, une capacité d'accepter les autres, une capacité d'accepter les événements qui sont en face de nous. Parce que c'est pas seulement j'aime, je t'aime, on s'aime. C'est pas ça. Hein. C'est être capable de voir le monde, être capable de voir notre société, être capable de voir notre avenir et de se dire qu'est-ce que je fais de tout ça ? Est-ce que je ferme les yeux parce que je n'ai pas envie de voir, parce que ça me fait peur ? Est-ce que je suis naïve en disant c'est génial parce que le monde est beau ? Ou est-ce que je me dis le monde ne va pas, je suis désespérée, ou est-ce que je me dis c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout ça, mais comme je m'aime et que je ne veux pas souffrir, je vais accepter ce monde tout en faisant tout ce qu'il faut pour le changer. Donc dans cette notion d'amour, il n'y a pas de mièvrerie, il n'y a pas ce qu'on nous a appris, on te donne une gifle, tu tends l'autre joue, c'est pas ça du tout. Dans cette notion d'amour, il y a une notion de considération de soi, de considération des autres, de dignité, et aussi de force, de volonté, de puissance. Et on arrive à un autre concept, puisqu'on parle des concepts, qui est la notion du pouvoir. Alors je pense que vous allez me demander si...
Effectivement.
Alors, ben là aussi, c'est un concept qui est dans notre société qui est d'ailleurs mal vu, parce que lorsqu'on parle de l'amour, en général, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, mais tout le monde dit « Youpi, on s'aime, c'est génial, on ne peut pas refuser quand même la notion d'amour, parce qu'on va dire que c'est quelque chose de très beau ». Par contre, en ce qui concerne le pouvoir, il y a beaucoup de réticences, et ce sont des réticences que je vois depuis toujours, depuis que j'enseigne, alors qu'en fait, c'est faux, parce que qu'est-ce que je fais avec mon amour ? Aujourd'hui, si on prend l'histoire de notre société, si on prend l'histoire du monde, de la nature, de tout ce qui se passe au niveau de nos gouvernements, au niveau de la faim, au niveau des structures de notre société, je pense que je vais pas vous dire une vérité en vous disant que beaucoup de choses ne vont pas dans notre société. Avec notre amour, qu'est-ce qu'on va faire, hein ? Donc si on veut changer les choses, il va falloir qu'on accepte l'idée du pouvoir. Et c'est une idée qui fait mal quand même. C'est une idée qu'on n'a pas envie de voir, parce que une personne qui a fait de son idéal, qui a fait de son amour un cheval de bataille, elle ne veut pas mélanger. Pour elle, le pouvoir, c'est une chose. Le pouvoir appartient à ceux qui... aux nantis, de nouveau, aux égoïstes. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui sont gentils. Eh bien, depuis des années, je dis non. Parce que le pouvoir doit appartenir à tout le monde. D'ailleurs, le pouvoir appartient à tout le monde. Dans ce sens qu'une personne qui est généreuse et qui veut changer le monde, si elle n'utilise pas son pouvoir, bien sûr qu'elle va être révoltée, et son pouvoir va se retourner contre elle-même parce qu'elle va se faire souffrir, mais elle ne va pas l'utiliser pour changer les choses. Elle ne va pas l'utiliser pour se positionner. Elle ne va pas l'utiliser pour agir, pour faire des actions. Donc on voit bien que ce concept doit être accepté comme un concept qui est tout à fait neutre, et que le pouvoir n'a rien à voir avec quelque chose de négatif qui appartient seulement à ceux qui l'utilisent pour se faire du bien ou pour faire du mal aux autres.
Martine Hibertino, j'ai une liste de questions qui s'allonge parce que vos explications génèrent des interrogations, génèrent de la curiosité. Mais je sais, vous aimez les mots, vous aimez écrire, vous aimez la parole, mais je sais que vous aimez aussi le dialogue. Et pour vous avoir écouté dans d'autres conférences, je sais que vous aimez plutôt les conférences débats ou conférences monologues. Alors j'aimerais demander au public si vous avez des questions, si vous aimeriez profiter de la présence de Martine Hibertino pour lui poser une question sur ce que vous avez entendu, si ça a suscité une interrogation, si vous avez des termes qui n'ont pas été clairs, sur lesquels vous souhaiteriez encore des explications, ou sur son travail également. Vous pouvez intervenir tout de suite, vous pouvez aussi intervenir un peu plus tard. J'ai encore quelques questions. Le jeune homme qui se trouve sur la gauche de mon point de vue, sur la droite du vôtre, a un micro, si je ne me trompe pas, pour ceux qui aimeraient s'exprimer. Est-ce que je peux passer la parole à quelqu'un maintenant ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez intervenir plus tard. Martine Hibertino sera aussi au stand qu'elle occupe dans l'allée le stand, c'est le D06, l'allée Dostoïevski. Donc vous pouvez aussi passer vers elle plus tard. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à intervenir à tout moment ou un peu plus tard. Pour continuer, poursuivre le débat, j'aimerais encore vous poser peut-être... une question. Vous parlez dans votre... on a beaucoup parlé maintenant de paroles, de communication, de mots. Dans votre livre, vous décrivez aussi le silence et l'importance du silence. Est-ce que vous aimeriez peut-être nous dire quelque chose sur cette notion ?
Alors, le silence est tout aussi important que la parole. Ça dépend dans quelles circonstances, évidemment, parce que là, vous voyez, ce que je viens de dire pourrait être interprété. On est exactement dans la définition dont on parlait tout à l'heure, à savoir que je vais dire « le silence est important ». Une personne qui a peur de s'exprimer va dire « youpi, le silence est important, donc je peux continuer à me taire ». Ce qui veut dire qu'elle va continuer à inconsciemment à attirer des problèmes de communication avec son entourage, à attirer des malentendus et donc à souffrir. Donc il est vraiment, je dirais, là vous voyez, le mot va nous permettre de comprendre ce qu'est le silence, à savoir que, indépendamment du fait qu'il est absolument indispensable de communiquer, de se comprendre et d'exprimer ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin, parce que nous sommes le seul à savoir ce dont nous avons besoin. Et je ne parle pas seulement au titre individuel. Au niveau d'un pays, on ne peut pas demander, par exemple, à un chef d'État de savoir ce dont les gens ont besoin. Il a besoin d'entendre la parole des gens. Il a besoin de savoir ce qui se passe. Donc, vous voyez, la parole est importante. Mais en même temps, lorsque je parle du silence, je parle de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne ? Il se passe que, si je suis dans le silence, je vais entendre une autre parole. Je vais entendre la parole de mon être intérieur. Je vais entendre la parole de ma conscience. Et finalement, est-ce que la parole de ma conscience n'est pas la seule qui va me donner la vérité ? Parce que je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule à savoir ce dont j'ai besoin. Et si je passe mon temps à écouter tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, je ne vais pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de moi, je dois prendre conscience que j'ai au fond toute la connaissance du monde. J'ai une connaissance qui est infinie, mais pour que j'entende cette connaissance, il va falloir de temps en temps que je me taise et que je sois capable d'écouter ce silence. Donc le silence est tout aussi important que la parole. Dans la mesure où, dans ce silence, je vais pouvoir écouter mon ressenti, mon intuition, qui fait partie aussi de ma communication avec les autres.
Alors là, vous me tendez une perche parce que un des passages que j'ai préféré dans votre livre, qui m'a le plus intéressé, c'est justement la définition de la connaissance. Souvent, on a une définition en fait qui est très intellectuelle de la connaissance. C'est un savoir accumulé souvent par le biais livresque ou éventuellement par le biais de l'expérience. Mais vous en faites vraiment une définition qui est extrêmement intéressante. Et pour le temps qui nous reste, je pense qu'on a le temps de l'aborder un tout petit instant. Mais je suis tout à fait consciente qu'il faudrait une explication beaucoup plus large. Donc vous dites de la conscience, de la connaissance, le premier palier de la connaissance entraîne le désir de ne plus souffrir. Le second nous oblige à aimer nos talents tout en respectant nos dualités. Le troisième ouvre notre âme au plaisir de vivre. À cette étape, la pureté de notre cœur s'unit à un nouveau sentiment de liberté. Le quatrième palier voit s'épanouir notre intelligence et le cinquième révèle enfin les trois qualités fondamentales du sage qui sont l'amour, affranchi de servitude et de possessivité, le lâcher prise et la détermination. C'est un vaste programme, un très vaste programme. Mais c'est très intéressant de voir comment dans un petit paragraphe, un petit chapitre sur la connaissance, est enfermée en fait une bonne partie de votre philosophie. Est-ce que vous aimeriez peut-être faire un commentaire sur ce lien entre la connaissance et la sagesse, entre l'acquisition de la connaissance et ces paliers que vous mentionnez ici ?
Alors, justement, déjà, ce que je considère comme étant la connaissance, bien sûr qu'il y a la connaissance intellectuelle, nous en avons parlé, mais la véritable connaissance dont je parle dans ce chapitre est la connaissance déjà, donc je parle du premier palier, qui est, bon, il faudrait peut-être reciter les phrases parce que je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai écrit.
Le désir de ne plus souffrir.
Voilà, bon. Donc le premier palier de la connaissance, effectivement, c'est le désir de ne plus souffrir. Pourquoi c'est le désir de ne plus souffrir ? Parce que à partir du moment où je n'ai pas ce désir-là, à partir du moment où je n'ai pas compris qu'il faut que je n'ai plus le désir pour ne plus souffrir, tant que je ne suis pas dans cet état d'esprit, je vais continuer à attirer des situations dans la vie qui me font du mal, qui me font souffrir, sans comprendre qu'au fond, ces situations de souffrance, ces difficultés, ne viennent pas parce que j'ai de la malchance, ne viennent pas parce que j'ai des gens autour de moi qui me veulent du mal ou que je ne sais pas gérer ma vie. C'est même pas ça, c'est pas parce que je ne sais pas gérer ma vie, c'est parce que je n'ai pas compris que j'ai un pouvoir, que mon pouvoir, c'est mon unique pouvoir qui m'appartient, qui n'appartient à personne d'autre. Et tant que je n'ai pas décidé d'une manière, je dirais, quasi vindicative, bon, en toute proportion gardée, de ne plus souffrir, je vais donc continuer à tirer des expériences négatives. Donc, effectivement, c'est vraiment le premier palier de la connaissance, à savoir, je sais ce qui se passe en moi, je vois à quel point cette souffrance m'entrave dans ma vie, et donc, faisant la connaissance avec elle, je décide de m'en débarrasser. Donc, c'est vraiment le premier palier de la connaissance. Ensuite, le second.
De respecter ces dualités et d'ouvrir notre âme au plaisir de vivre.
Voilà. Alors, respecter nos dualités, c'est une évidence parce que nous le voulions ou non, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous ne sommes pas arrivés justement au détachement extraordinaire qui nous amène à la béatitude. Nous avons deux choix. Soit nous avons le choix de ne pas vouloir voir nos difficultés émotionnelles, nos dualités évidemment, et nous allons continuer à souffrir puisque nous allons continuer à leur obéir. Soit nous avons le choix, qui est un deuxième palier justement de connaissance, de se dire ben voilà, voilà. Mais ma connaissance, c'est ça, c'est que j'ai en face de moi, comme j'ai le public en face de moi, j'ai mes émotions, voilà, qui sont en face de moi, un certain nombre d'émotions, et ces émotions, ben, elles sont là, voilà, je les accepte comme elles sont, une personne est blonde, une personne est brune, une personne est blanche, verte, noire, peu importe, mais elles sont là, et je les accepte, je les accueille, parce que de toute façon, je sais que je vais en faire quelque chose. Et si je les accepte, je vais pouvoir justement m'en débarrasser parce que j'ai des techniques de travail. Donc, c'est vraiment une capacité à ce moment-là de devenir neutre, de devenir spectateur. Et quand je deviens spectateur, j'acquiers une connaissance. Donc, c'est le deuxième palier de la connaissance.
Ouais. Ensuite, l'épanouissement de l'intelligence.
Alors, l'épanouissement de l'intelligence.
De quelle intelligence ?
Bon, je pourrais même dire que finalement, parler de l'épanouissement de l'intelligence n'est pas forcément juste, parce que nous naissons avec une intelligence. L'intelligence chez l'homme est innée, hein. C'est même la seule chose qui lui appartient depuis la nuit des temps, si je puis dire, alors que son intellectuel, il le forge, il le travaille, il le transforme au gré de ce qu'il entend, au gré de ce qu'il reçoit, alors que l'intelligence est quelque chose qui lui appartient en propre. Et on pourrait dire également que tous les êtres de l'humanité, tous les êtres du monde partagent la même intelligence, parce que nous avons la même connaissance. Alors maintenant, c'est clair que cette intelligence, elle est au fond de nous, elle est nichée au fond de nous, dans ce que j'appelle la conscience, qui est en face de ce subconscient qui nous fait souffrir, parce qu'on parlait tout à l'heure de lui, quand on parlait des émotions. Et cette intelligence qui est finalement en nous depuis notre naissance, lorsque nous regardons de trop près nos émotions, lorsque nous regardons de trop près notre subconscient et d'une manière égocentrique notre souffrance, ce n'est pas que nous n'avons pas notre intelligence, ce n'est pas qu'elle n'est pas là, c'est que tout simplement nous l'oublions, nous oublions de la regarder. Et c'est pour ça que lorsque je parle d'épanouissement, on pourrait tout simplement dire que le regard sur notre conscience, le regard sur notre intelligence fait que nous avons l'impression qu'elle s'épanouit. Et qu'au fur et à mesure que nous allons oublier nos émotions parce que nous sommes capables de les découvrir et de ne plus en souffrir, nous allons évidemment écouter de plus en plus cette voix intérieure, cette conscience, cette intelligence qui finalement c'est tout. Qui est capable de nous amener vers les situations les meilleures pour nous, qui est capable de nous permettre de réussir les choses dont on doutait auparavant, auxquelles on ne croyait pas, et qui finalement nous fait dire un jour « mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire, comment j'ai pu faire ça ?» Mais parce que lorsque j'ai oublié de regarder mes émotions, mon intelligence m'a guidée, m'a dit « voilà ce que tu dois faire », et en général, elle me guide toujours vers ce qui est juste. Donc cette intelligence, lorsque j'ai la capacité de commencer à la regarder, de commencer à la laisser me parler, finalement, c'est ça, la laisser s'épanouir, c'est la laisser me parler et l'écouter, évidemment que c'est un autre palier de détachement.
Et donc qui nous mène à celui de la sagesse que vous décrivez comme l'amour, le lâcher prise et la détermination.
Tout à fait. Et quand on parle de sagesse, ne parlons pas de nouveau d'ascétisme, de Bouddha. Bon, bien sûr que Bouddha était un sage, mais nous ne sommes pas obligés d'être des Bouddhas, parce que chaque fois que j'acquiers une compréhension de la vie, chaque fois que je suis capable de lâcher prise dans une situation, chaque fois que je suis capable de trouver mon bonheur dans une situation, de faire le choix le meilleur pour moi, c'est déjà un acte de sagesse.
Alors, peut-être en parlant justement de spiritualité ou de religion, Vos livres précédents, vous avez beaucoup écrit, vous avez beaucoup écrit d'ouvrages qui sont des ouvrages plutôt techniques, en fait, avec des vraies techniques de travail pour déprogrammer nos émotions dont vous avez parlé avant, pour aller vers plus de bonheur et pour construire sa vie d'une manière sereine, vraiment en adéquation avec nos propres besoins. Mais dans ces ouvrages précédents, vous avez en quelque sorte peu parlé de spiritualité, de votre relation à votre propre foi. Ce sont des notions qui réapparaissent en quelque sorte dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être nous dire pourquoi est-ce que ces notions n'étaient pas là dans les ouvrages précédents, pourquoi est-ce qu'ils refont en quelque sorte surface à cette période de votre vie avec cet ouvrage que vous venez de publier?
Bien, je dirais que c'est une manière un peu de boucler la boucle, parce que lorsque j'ai commencé sur ma voie, dans cette vocation, puisqu'au départ, vous l'avez mentionné, je suis peintre, j'étais artiste peintre, je le suis toujours d'ailleurs, dans mon cœur et dans mon travail. Mais c'est vrai qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai découvert ma capacité d'aider les autres et surtout ma vocation à aider les autres. Et cette vocation a démarré, je dois le dire, grâce à une foi en l'homme, grâce à une foi en la vie. Et surtout grâce à une foi en Dieu, mais quand je parle de Dieu, ça n'a rien à voir avec une quelconque religion, parce que pour moi, Dieu est partout. D'ailleurs, je le mentionne dans mon livre, j'insiste là-dessus. Dieu n'a pas de religion, et ceux qui pensent que Dieu a une religion, c'est bien dommage, parce qu'il n'appartient à personne. Je pense qu'il nous appartient à tous, et on peut considérer aussi que Dieu est une pensée, une énergie, peu importe. Donc, c'est vrai qu'au départ de mon parcours, il y a environ 27 ans, tout mon travail s'apparentait à un chemin, je dirais, de foi. Mais ce que j'ai voulu donner tout au long de ces années, c'est non pas ce qui me faisait plaisir, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir de parler de ma foi. Pour moi, c'est un bonheur immense d'en parler, mais en même temps, je me suis dit que ce n'était pas forcément ce dont les gens avaient besoin, parce que c'est bien joli de parler de foi. Quand on est au contact de son quotidien, avec nos difficultés, avec nos souffrances, avec des problèmes avec nos enfants, avec des problèmes avec l'argent, avec tout ce qui fait que c'est la vie d'un être humain, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est pour te faire plaisir, c'est bien joli, mais c'est peut-être les gens ont peut-être besoin d'autre chose. Et c'est ainsi que je suis arrivée à écrire tous ces livres dont vous parlez, où je parle de la personnalité de l'homme, où je parle des différentes personnalités, de leurs difficultés émotionnelles, où j'ai donné aussi beaucoup de techniques de travail. Et ensuite, il y a aussi, je dirais, une vision. Ma vision des choses fait que j'estime que ma foi, c'est autre chose, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est une chose qui est très personnelle. Et j'estime que je n'ai pas imposé cela, et surtout dans la formation de médiateur, j'estime que je n'ai pas à imposer cette foi aux personnes qui viennent me voir, parce que le but de l'opération, c'est de les aider à aider les autres, de les aider à trouver des solutions dans leur vie, et finalement, peu importe ce en quoi je crois. Alors, tout au long de ces années, j'ai mis un petit peu cette foi en veille, non pas que moi, je n'ai pas vécu ma foi, mais je l'ai vécue toute seule, au fil du temps. Si des personnes avaient envie d'en parler, je n'ai jamais refusé d'en parler, mais je me suis toujours gardée de mettre cela en avant, parce que j'estimais que ce n'était pas important. Et puis, évidemment, que maintenant que j'ai écrit ces livres, et que, je dois le dire quand même, ce sont des livres très techniques, je suis très heureuse de les avoir écrits, mais en même temps, j'ai envie de me nourrir aussi, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai éprouvé le besoin de revenir, d'une part, à expliquer pourquoi ce qu'est ma philosophie, ce que je propose aussi, j'impose ou ce que je pense, mais ce que je propose à l'humanité pour notre futur, pour les années à venir. J'ai envie de parler de tout cela, et j'ai aussi envie de parler de ma foi, parce que c'est vrai que si je regarde mon parcours, si je n'avais pas eu cette foi, je n'aurais pas tenu le coup, parce que c'était pas tout simplement facile, d'avoir des idées un petit peu aussi précurseurs qui pouvaient à certains moments être mal comprises par certaines personnes. et qui aujourd'hui m'amène finalement à être heureuse parce que je vois que j'ai pu, dans la mesure de mes moyens, apporter certaines choses. Et aujourd'hui, je pense que je peux, je dirais que c'est presque une ère de repos. C'est pas un repos dans le fait de ne rien faire, mais c'est un repos dans le fait que je vais pouvoir écrire des choses qui me nourrissent aussi et qui me font plaisir. Et c'est pour ça que je reviens aussi à parler un petit peu plus de ma spiritualité, de ma foi et de ma vision du futur, parce que j'estime que tout le reste est à disposition maintenant.
Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation dans votre écriture. On se réjouit beaucoup déjà du prochain ouvrage qui est déjà en préparation, si je ne me trompe pas. Nous arrivons au terme de la discussion. La salle étant un peu intimidante et pas très propice au dialogue, je ne sais pas s'il y a quand même une personne ou deux courageuses qui voudraient poser une question ou qui sont particulièrement motivées par une définition ou par une question qu'ils aimeraient poser à Martine Libertino. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Apparemment, ce n'est pas le cas, mais je suis sûre que vous avez envie de continuer la conversation. Vous pouvez rejoindre Martine Libertino à son stand, donc le stand D06. Elle va dédicacer son ouvrage, celui-ci ou les précédents qu'elle a écrits, ce soir jusqu'à 19h. Elle sera demain aussi, le vendredi 2 mai, de 17h à 21h30, et puis les samedis et dimanches de 14h à 19h, donc au stand des éditions Duchamp, c'est le stand D06, rue Dostoïevski. Je pense que j'ai tout dit. Peut-être encore une information importante pour vous. Si vous souhaitez être tenu au courant du travail de Martine Libertino, notamment sa formation de médiateur ou l'école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents qu'elle a créée aussi récemment, ou de toute autre conférence, débat, nouvelles publications, etc., vous pouvez laisser vos coordonnées, vos adresses e-mail, coordonnées, etc., au stand de Martine Libertino aux éditions Duchamp. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Martine Libertino.
Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de salon. Et à bientôt.